Passons maintenant aux choses sérieuses. Il existe plusieurs joueurs qui œuvrent en santé. Les hôpitaux, bien que ce ne soit pas le seul endroit où on doit soutenir les personnes, même vulnérables, ou encore les CHSLD, etc. Mais la Fondation canadienne pour l'amélioration des services en santé réclame aujourd'hui, partout au Canada, un droit de visite en tout temps pour les familles des patients. Donc avec nous, Armand Boudreau, en direct des États-Unis, de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour, M. Boudreau.
Oui, bonjour, M. Vassette.
Bonjour. Désolé, vous avez entendu une introduction beaucoup plus large que ce que vous pensiez me discuter, j'imagine. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, dès aujourd'hui, à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé?
En fait, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé vraiment est dans un mouvement beaucoup plus général. On est en train, en fait, dans le système de santé, de replacer le patient vraiment au cœur des préoccupations. Mm-hmm. Alors que ce n'était pas le cas nécessairement avant, mais là, on commence à voir le patient et sa famille plus comme un partenaire.
Okay.
Dans ses soins, dans son mode de vie qu'il doit adapter pour améliorer sa santé, mm-hmm. et puis, etc. Là. Donc, c'est un peu ce mouvement-là qui se produit à ce moment-ci. Et, la Fondation s'est associée avec un institut américain, en fait, le Institute for Patient and Family-Centered Care, mm-hmm. qui avait fait des recherches sur la présence des familles là, dans les politiques des différents établissements. Mm-hmm. Et, bon, malgré les craintes que certaines personnes pouvaient avoir, on s'est rendu compte que lorsque les patients et leurs familles les familles sont présentes auprès des patients, bien, on se retrouve avec des soins qui sont de beaucoup améliorés et plus sécuritaires.
Okay.
On s'aperçoit qu'il y a une réduction des erreurs de médication, par exemple.
Parce qu'ils surveillent, peut-être.
Mm-hmm. Pardon?
Parce que ces personnes-là peuvent davantage surveiller ou être à l'écoute.
Plus être à l'écoute, je pense. Prenez votre propre expérience, M. Rassette. Je suis certain que lorsqu'on est malade et puis qu'il faut aller voir notre médecin et mm-hmm. puis on est très préoccupé, mais parfois on aime ça avoir quelqu'un qui nous accompagne,
ouais.
juste pour nous assurer, par exemple, qu'on pose les bonnes questions et puis nous assurer qu'on a bien compris ce qui nous est dit. Parce que quand on est vulnérable, on est parfois très anxieux et puis on peut manquer des éléments ou manquer des choses. Donc, c'est un peu cette mouvance-là là, qui est en train de revenir de façon beaucoup plus percutante dans le mm-hmm. système de santé.
Donc, c'est sûr qu'il y a un mandat plus général là, avec votre fondation, mais c'est ce que vous faites, ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est suite non seulement aux conclusions de l'Institut américain dont vous parliez, mais d'une étude aussi que vous avez faite en 2015, c'est bien ça?
Oui, il y a un sondage qui a été fait auprès des hôpitaux au Canada en 2015,
mm-hmm.
et puis effectivement, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait que le tiers des hôpitaux canadiens qui avaient ce qu'on appelle des politiques accommodantes pour les familles.
OK.
Donc, il ne faut pas penser que ces politiques-là qui étaient existantes et qui sont encore existantes, qui sont très restrictives parfois, n'ont pas nécessairement leur raison d'être. Les gens veulent s'assurer, par exemple, que le patient dans la même chambre d'à côté ne soit pas importuné,
ouais.
veulent s'assurer, etc.
Oui, là où le droit de quelqu'un enfreint peut-être le droit de l'autre, c'est ça.
C'est ça. On est mm-hmm. inquiet, par exemple, aussi des infections, ce genre de choses-là additionnelles mm-hmm. qui pourraient se produire. Et les recherches démontrent que ce n'est pas le cas.
OK. Donc,
en fait, même pour le système, pour l'hôpital elle-même, ce qu'on a constaté, c'est que lorsque la famille est présente avec les patients, surtout lorsqu'on fait, par exemple, les rondes de matin là, avec les médecins, bien, ça nous apporte des évaluations médicales qui sont plus informées.
Okay.
Il y a eu une diminution de la durée des séjours à l'hôpital, une réduction des réadmissions.
Okay.
Et puis, la transition se fait beaucoup plus facilement entre l'hôpital et puis le domicile.
Écoutez, j'ai pas vu le questionnaire ou ce que vous avez évalué exactement, mais je me pose quand même une question, surtout à l'heure où on sent que les proches aidants sont très, voire trop sollicités par le système. Vous trouvez pas qu'il y a un risque quand les proches aidants sont très présents à l'hôpital, par exemple, qu'ils pallient peut-être à des actes ou des soins qui ne sont pas prodigués? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque que les proches aidants soient un peu obligés, au fond, de faire du travail de préposé ou autre chose du genre?
Ben, en fait, c'est toujours possible, là, évidemment, là, mais sauf que ce n'est
Est-ce que vous avez
vraiment
réussi
pas.
à mesurer ça?
Non, on n'a pas mesuré ça, effectivement, mais ma perception à moi, c'est beaucoup plus que la famille, elle est là pour être un peu les oreilles et puis la voix du patient
Okay.
lorsque celui-ci est vulnérable. Elle n'est pas là pour remplacer le personnel.
Ouais.
Et puis, je ne pense pas que il faudrait qu'on revérifie, mais je ne pense pas que dans les études américaines, c'est ce qui a été démontré, là.
OK. Puis, vous sentez aussi que l'autonomie de la personne est préservée, que, par exemple, on vit souvent la situation, les enfants en situation de handicap, quand ils vieillissent, souvent, les parents ont un peu l'habitude de prendre soin d'eux. Peut-être que les parents ont tendance à faire des choix pour eux. Est-ce que vous validez aussi que l'autonomie des personnes est bien préservée dans cette nouvelle dynamique que vous proposez?
Ben, moi, à mon avis, l'autonomie de la personne, elle est rehaussée parce que
Okay.
La famille n'est pas là pour remplacer le patient, pour prendre sa place, pour parler à sa place, mais pour l'appuyer et l'accompagner là, dans sa démarche.
Ouais.
Et quand on considère le patient, là, je parle du patient vraiment et non pas nécessairement la famille, mais quand on considère le patient comme étant réellement maintenant un partenaire de ses soins, puis un partenaire pour définir un peu comment il va revenir à la santé, comment il va améliorer sa santé, comment il va éviter que sa santé détériore, que sa maladie prenne de l'ampleur. Quand on commence à le considérer réellement, ce patient-là, comme un partenaire, et c'est ça le mouvement qui est en train de se produire au niveau du système de santé à l'heure actuelle, mais là, à ce moment-là...
C'est celui que vous voulez promouveoir, en tout cas.
Oui, c'est celui qu'on veut promouvoir. Et c'est celui qu'on commence à voir aussi là, de plus en plus dans
le... Oui, parce que vous ne trouvez pas que même il y a une perte pour les patients de place actuellement. En tout cas, c'est sûr que les provinces ont des distinctions quant à la gestion des soins aux personnes, mais au Québec, il y a moins d'espace pour s'exprimer, moins d'espace démocratique là, pour faire entendre nos voix. Est-ce que ce que vous proposez, que ce soit cette mesure-là, que les prochains dents soient plus proches, sans jeu de mots, ou que les patients redeviennent au cœur des soins, est-ce que vous pensez que ça va être entendu au Québec?
Bien, je pense que c'est déjà beaucoup entendu au Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à l'Université de Montréal, avec plusieurs établissements de santé au Québec, il y a un mouvement de patients partenaires qui est en train de vraiment de prendre de l'ampleur au Québec notamment, mais qui fait aussi ses petits des petits à travers le pays. Là.
OK. Et vous voulez dire, juste pour qu'on explique aux gens, c'est-à-dire que les patients sont invités comme experts dans les universités, dans les centres hospitaliers universitaires, c'est ça?
Exactement. Ils sont invités comme des experts. Bon, il y a différents niveaux. Ils peuvent être experts de leurs propres soins. Donc, ce qui est en train de se faire au Québec à l'heure actuelle, c'est qu'on forme à l'Université de Montréal des patients à devenir des patients ressources pour d'autres patients, par exemple, qui ont besoin d'aide dans cette approche-là, là, de vraiment être capable de bien exprimer leurs besoins et puis leurs idées, etc. On forme même des patients aussi pour intervenir à d'autres niveaux, pour décider un peu comment les services devraient être rendus. Mmh. Alors, ce mouvement-là est en train de vraiment prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur au Québec et dans le restant du pays aussi. Puis c'est vraiment une excellente chose. C'est un peu, à mon avis, une mini-révolution qui se passe à ce moment-ci, de considérer le patient non pas comme étant une personne qui est passive sur laquelle on agit, mais plutôt une personne qui doit être active dans ses soins, active dans la façon que les soins doivent être rendus, active dans les décisions même qui doivent être prises pour améliorer les services de santé.
OK. Bien, on entend quand même votre point de vue. C'est sûr qu'il y a des changements. Tu sais, avant, le patient est un citoyen. Maintenant, comme on recherche beaucoup l'avis des experts, on le transforme un peu en expert. C'est peut-être une solution négociée hein, pour que le patient ait encore une place dans ce système de santé. Mais je voudrais revenir quand même à la cause qu'on voudrait acheter aujourd'hui, c'est-à-dire la politique d'accommodement pour que les familles puissent être présentes dans les hôpitaux. Alors, si on veut plus d'informations ou même vous appuyer dans votre démarche, où on s'informe, où on va?
Oui, vous pouvez tout simplement faire appel à la Fondation directement. Vous pouvez aller sur leur site web, à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé.
Le FCASS, donc?
C'est ça, FCASS.ca.
Bien. Ben écoutez, Monsieur Armand Boudreau, conseiller en amélioration et formateur au FCASS, je vous remercie d'être venu nous présenter non seulement cette cause, mais votre fondation qui, je pense, risque d'intervenir beaucoup en santé dans les prochaines années.
C'est bien. Je vous remercie, monsieur.
Merci, Monsieur Boudreau.